Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, j'ai repris le livre de Edouard Blaide. J'avais un an en 1900. Je vous resitue rapidement Edouard Blaide. Demandez à vos parents, les enfants, à vos grands-parents, les arrière-grands-parents si vous les avez encore, et tous vous parleront des heures qu'ils ont passées sur le bled. Et ce monsieur était instituteur avec sa femme Colette, et puis il a vécu jusqu'en 1996, c'est dire qu'il a connu tout le XXe siècle quasiment. Et il a écrit un livre racontant son histoire. Alors, je suis au chapitre 3. J'entends encore la voix rieuse de ma mère me dire « Une fois de plus, te voilà partie ». Bien souvent, on me parlait, je ne répondais pas. Une idée subite me traversait l'esprit. Je la suivais, comme on suit un oiseau passant devant les yeux. Ce penchant m'est toujours resté. Mais maintenant, je suis descendue de mon petit tramway de banlieue ou de mon train tout empanaché de fumée qui traîne ses wagons massifs et ressemble à un long serpent noir déroulant ses anneaux. Enfin, je retrouve ma rue avec son train-train familier d'il y a trois quarts de siècle. Ses bruissements, ses chuchotements, ses éclats de rire, ses jours de liesse et ses drames, quand une porte s'encadrait d'une tenture noire frappée d'un monogramme en laine blanche ou en fil d'argent. Au numéro 1, une grande bâtisse à deux étages en briques roses, plantée à l'angle du boulevard de Bellechasse et de notre rue. Très haut, près du pignon, deux affiches publicitaires, fraîches de couleurs vives, charmante, avec les jeunes personnages, vous invitant à déguster les friandises qu'ils proposaient à l'attention des passants. Sur l'une, une fillette en jupe gros bleu à motif jaune, en boléro noir, écrivait en se haussant sur la pointe des pieds « Chocolat meunier, méfiez-vous des contrefaçons ». Elle avait posé près d'elle son grand parapluie bleu, son panier d'osier qui devait contenir son déjeuner et son goûter avec les tablettes de chocolat qu'elle recommandait. Sur l'autre, un garçonnet coiffé d'un grand béret, sa gibecière accrochée dans le dos, regardait certainement avec convoitise l'inscription « Petit beurre lu », Nantes, Lefèvre utile. Ces deux enfants étaient si sympathiques, si vrais dans leur attitude, qu'on s'attendait à les voir s'animer, descendre de leur affiche, nous sourire, puis se donner la main comme un frère et une sœur qui prendraient le chemin de l'école. Que de fois ai-je vu des voitures qui débouchaient de notre rue, renversées, leur chargement jonchant la chaussée, les chevaux les jambes brisées, le cocher blessé assis sur une chaise, buvant un cordial que lui avait tendu la propriétaire du café. Le choc avait été entendu, les gens sortaient de leur maison, s'attroupaient. Chacun disait son mot. Les tramways vont trop vite, ils ne devraient pas circuler dans les rues. Les rues devraient être réservées aux voitures tirées par des chevaux. Il faudrait des signaux lumineux, comme pour les chemins de fer. Madame Pellerin avait téléphoné au commissariat. Deux hirondelles, c'est les gendarmes de l'époque, deux hirondelles, coiffées de leur légendaire casquette plate et pédalant au même rythme tranquille, arrivaient, questionnaient les uns et les autres, écrivaient sur un calepin. On poussait la voiture pour dégager la voie. Le tramway repartait, mais il arrivait aussi que le tramway dérailla. Alors tout se compliquait. Cette maison était habitée par des gens du Nord, reconnaissables à leur accent et à certains mots qui n'étaient pas de notre langage familier. Aux vacances, ils recevaient des parents dont les enfants participaient à nos jeux. Il y en avait un que j'avais surnommé Tchotpel. Il voulait toujours que je lui prête ma pelle. Il me disait « Donne-moi ta tchotte pelle ». Nous étions bons amis et le restâmes jusqu'au jour où il me lança un pavé en pleine tête au-dessus de l'œil droit. On refaisait la chaussée du boulevard et de place en place sur le trottoir s'entassaient des pavés. Nous nous amusions à construire un muret. Il me lançait les pavés dont je disposais les uns sur les autres. Tout à coup, alors que j'avais la tête baissée, j'en reçus un en plein visage. Sous le choc, je chancelais. J'avais le visage inondé de sang et l'œil droit bouché. Je rentrai à la maison accompagnée de mon frère Jacques. Quand ma mère me vit, elle s'écria « Mon pauvre enfant, mais que t'est-il arrivé ? Je ne vois plus de cet œil !» Je tremblais. J'avais peur de mourir. J'avais mal dans la tête. Elle avait fait bouillir de l'eau, mis une pincée de gros sel, puis avec du coton hydrophile, elle me lavait avec précaution. Ensuite, elle m'avait baigné l'œil avec de l'eau boriquée dans une œillère de porcelaine. Je lui disais « Dis, maman, je n'irai pas à Montparnasse ?»« Mais non, mon petit, tu n'iras pas à Montparnasse. »« C'est vrai, hein, que je n'irai pas à Montparnasse ?» Puis, pour s'assurer que je n'avais rien de grave à l'œil, elle me dit de fermer l'œil gauche et elle me fit compter ses doigts. Le pavé avait fendu largement l'arcade sourcilière, mais l'œil ne semblait pas avoir été touché. J'avais peur de la mort, et quand je disais Montparnasse, c'est du cimetière qu'il s'agissait. Nous y avions deux tombes, et j'avais entendu mon père dire « Il y a encore une place ». Et voilà que dans ma frayeur, je me figurais que cette place était pour moi. Pour le dîner, elle m'avait fait un tapioca au lait que j'aimais bien, puis elle m'avait couché, me bordant dans mon petit lit de fer contre la cheminée de sa chambre. Rassurée, je m'étais endormie. Ô main douce, ô cœur sublime d'une mère qui pense toutes les blessures. À l'approche de la Toussaint, j'allais au cimetière Montparnasse avec mon père ou l'un de mes grands frères. Nous portions chacun un gros bouquet des plus beaux chrysanthèmes que ma mère avait cueillis dans le jardin et enveloppés dans un grand papier blanc. Nous traversions le Luxembourg et je m'étonnais de voir d'autres enfants faire du patin à roulettes et se livrer à mille extravagances alors que, mélancolique, pénétré de ma mission, j'allais me recueillir sur la tombe de vieux parents que je n'avais pas connus. Le parrain de mon père, un grand savant que mes arrière-grands-parents avaient élevé jusqu'à l'adolescence. Les parents de mon père et ses grands-parents, et sa petite sœur Laure, décédée à l'âge de 4 ans. Ils étaient allongés les uns sur les autres, comme dans les couchettes d'un navire qui ne quittait jamais la rive. Au numéro 2, le café, et au numéro 4, l'entrepôt de vin en gros de monsieur et madame Pellerin. Lorsqu'il y avait une réunion de famille à la maison, pendant que les dames buvaient à petites gorgées le madère ou le malaga que ma mère leur avait servi dans un petit verre de cristal et se racontaient leurs affaires de femmes, les hommes allaient au café, car à cette époque, ce n'était pas l'usage d'avoir chez soi tout un assortiment d'apéritifs. Dès que M. Pellerin nous voyait entrer, il essuyait son comptoir d'étain d'un geste large et machinal. Lorsque nous étions assis, il venait vers nous. L'apéritif était souvent coupé d'un sirop. Raphaël citron, vermouth cassis, picon fraise, servi dans un grand verre. Il apportait de l'eau de seltz. Sur la table, il y avait toujours le porte-allumette en porcelaine garni de son frottoir. Je les accompagnais naturellement et j'avais le droit à une grenadine à l'eau de seltz. Et M. Pellerin me disait « Alors, Édouard, avec une petite goutte de kirsch ?» Chaque jour, M. Pellerin partait livrer des tonneaux ou des casiers de bouteilles chargés sur une voiture attelée d'un magnifique percheron gris pommelé, dont il prenait grand soin, et même il le parait d'une fleur, d'un ruban, pour témoigner qu'il le prenait pour un bon compagnon. Mais si j'ai gardé un souvenir précis et amical de M. Pellerin, c'est pour les émotions qu'il a fait vibrer en moi et dont les échos ne se sont pas perdus. M. Pellerin jouait de la trompe, nous disions du cor de chasse. Et parfois, le dimanche à la belle saison et en fin d'après-midi, un ami qui jouait avec la même passion venait le voir. M. Pellerin restait près de sa boutique au bout de notre rue, tandis que son ami se postait près de chez nous. La distance qui les séparait était à peu près de 200 mètres. M. Pellerin commençait de jouer. C'était comme un appel auquel son ami répondait. C'était d'abord une plainte qui progressivement s'enflait pour devenir un sanglot désespéré. L'autre adoucissait ses accents pour lui montrer qu'il prenait part à sa souffrance et le consoler. C'était émouvant. Nous étions tous bouleversés, comme pris par un sortilège. Quand c'était fini, ma grand-mère et mes parents disaient « Que c'est beau ! Monsieur Pellerin et son ami ont un grand talent !» Mais ma grand-mère ajoutait « Vous rappelez-vous, Alexandre, quand nos familles allaient ensemble déjeuner sur l'herbe dans les bois de Meudon ou de Vincennes ? Votre père, mon mari, et le grand-père Auguste, qui avaient leur trompe en sautoir, se mettaient à sonner dès leur arrivée sous les grands arbres. C'était encore plus beau !» Oui, grand-mère, c'était encore plus beau, plus poignant. C'était des maîtres. Si l'on n'était pas pressé par le temps ou préoccupé par un souci, on ralentissait le pas en passant de la fenêtre ouverte de M. Bertrême au numéro 3. Les notes mélodieuses de la flûte ou les accords langoureux du piano mettaient de l'optimisme dans le cœur pour la journée. M. Bertrême était musicien amateur, mais un excellent musicien, ami de ma famille. Il faisait partie du petit orchestre qui entraînait les danseurs en tourbillon joyeux le samedi soir ou le dimanche après-midi, dans la grande salle du café de la Fauvette, place du théâtre. Souvent, à l'occasion des mariages, on le prenait pour tenir le piano, faire chanter et danser. Il recevait alors une pièce d'or. Affligé de claudication, il ne dansait pas. Mes frères faisaient valser sa jolie femme. J'entendais dire « Dieu, que sa femme est jolie !» Et il y avait toujours quelqu'un qui avançait malicieusement. C'est certainement sa flûte qui l'a séduite. Il en joue si bien. Mais son métier principal était décorateur sur porcelaine. Il peignait des femmes dévêtues aux rondeurs agréables, inspirées de Boucher, des pastorales ou encore des scènes d'escarpolette à la Watteau. Notre ami Bertrême était riche de beaucoup de talents. Et Édouard Bled continue à décrire sa rue, son enfance. Mais il me faut m'arrêter là. Alors, merci à Roland pour la technique. Et à vous, je dis à bientôt, j'espère. Au revoir.